gré du temps, de Noël. Passent les Noëls, passent les années, les souvenirs nous reviennent pour mieux revivre cette saison avec amour et en chanson. À vous toutes et tous à l'écoute, Armand Dubois au micro. Nous approchons de Noël et j'ai eu envie de vous faire et de me faire également un beau cadeau. Nous passerons la prochaine heure avec une artiste, une poète à 16h, mais surtout une fée au grand cœur. Avec plaisir, je vous présente l'invité d'aujourd'hui, une personne qui est bourrée de talent et qui m'est très précieuse, ma fille, Émilie Dubois, nous honore de sa présence. Bonjour, Émilie.
Bonjour.
Ça fait assez curieux de recevoir quelqu'un que je vais tutoyer, parce que j'ai toujours l'habitude de vous voir les invités. Mais comme tu es ma fille, je préfère qu'on conserve le rapprochement naturel. C'est OK?
Exactement.
Alors, si je te reçois, c'est que d'une part, tu as préparé plusieurs pièces musicales. Ce sont des pièces qui, pour toi, ont vraiment une valeur très importante.
Oui, qui évoquent des souvenirs d'enfance ou des beaux moments, des émotions, des sentiments.
Et je t'ai présenté aussi comme étant une artiste et même une poète à 16 heures. Tu peux nous préciser pourquoi?
En fait, je pense que je suis une artiste multidisciplinaire. J'ai en moi ce désir toujours de création sur le niveau théâtral, le niveau de l'écriture, de la danse, de la musique. Et j'ai tout récemment sorti mon tout premier recueil de poésie, 365 jours, en octobre dernier.
Alors, si tu nous en parlais justement, mais d'abord, il faut dire quand même que tu as une formation en art dramatique.
Oui, en enseignement de l'art dramatique à l'UQAM.
Tu n'as pas pour autant enseigner longtemps en art dramatique.
Non, pas du tout. Parce que c'est une chose d'aimer les arts, mais c'est aussi une autre chose d'avoir ce désir-là de l'enseigner. Donc, après mes études, j'avais le goût, le désir d'explorer autre chose, peut-être d'aller au fond de ce désir-là artistique. Donc, je suis partie pour l'Ouest, l'Ouest canadien.
Et là, tu as fait un métier formidable!
Mais oui, j'ai fait de la radio, donc j'ai été animatrice de la radio CFRG à Gravelbourg, donc un petit village, et j'ai travaillé pour la radio communautaire francophone.
Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de franco-saskatchewanais, comment dit-on?
Mais en Saskatchewan, c'est les Francescois.
Francescois, bravo! Alors, il y en a beaucoup,
ouais.
Et on privilégie beaucoup le fait de pouvoir préserver cette culture francescoise.
Mais je dirais pas qu'il y en a beaucoup. Je dirais qu'ils sont là, puis que c'est important de leur donner une visibilité.
Ils sont là, mais ils sont très présents. C'est ce que je voulais dire en disant beaucoup, parce qu'ils font sentir leur présence.
Oui, exactement.
On les retrouve dans plusieurs activités culturelles, d'ailleurs. Il y a un théâtre qui est assez dynamique en Saskatchewan.
Oui, il y a la troupe du jour, donc pour laquelle j'ai eu la chance de faire une petite tournée théâtrale où j'ai participé à l'écriture de la pièce qui était pour l'été. Donc, la date m'échappe, c'était avant mon retour en 2020, je crois. C'était après la pandémie, donc ça s'appelait « Pandamour » et on a tourné à travers la Saskatchewan.
Une belle expérience.
Oui, vraiment.
On va parler de musique. La première pièce que tu vas nous présenter est une pièce essentiellement religieuse. Elle a une connotation pour toi très particulière parce qu'elle te ramène à une époque privilégiée de ton développement, si j'ose dire, même une époque de jeune adulte. Quelle est cette pièce?
Alors, c'est le psaume de la création interprété par Grégory Turpin, donc un artiste dont j'ai fait la connaissance pendant mes études à l'université. Donc, moi, j'étais en communauté. Donc, j'habitais dans la résidence du Chemin Neuf. Donc, j'avais mon petit appartement, ma petite chambre, mais c'était vraiment une vie de communauté. C'est une chanson que je trouve magnifique et interprétée par Grégory Turpin. C'est une chanson qui me touche beaucoup.
Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. En toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux, de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Je veux crier mon Dieu. D'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création.
Chambre de la création, interprétée par Grégory Turpin, une chanson de Patrick Richard. Le choix de notre invitée, Émilie Dubois, qui en l'occurrence est aussi ma fille, et qui nous parle un peu de son parcours. Est-ce qu'il serait trop osé de demander l'âge d'Émilie?
Mon âge? Bon, ben, je peux dire que j'approche la trentaine.
OK, c'est bien. Toujours célibataire.
Toujours, je tiens à le dire.
Mais avec plein de projets en tête.
Exactement.
Les projets. D'abord, il y a eu ce recueil qui a été lancé cet automne. Ça a été d'abord un bel événement. Mmh. Si on parlait du recueil en soi, qui porte le titre de 365 jours, qu'est-ce qui a mené à l'écriture de ce recueil de poésie?
Mais j'ai toujours eu ce désir-là en moi d'écrire. J'ai toujours écrit sur des bouts de papier dans mon téléphone. Puis, j'ai eu la chance de faire une formation, un stage de 3 semaines au Centre des arts de Banff en écriture. Il y a déjà presque 2 ans. Puis, après ce stage-là, m'est venu ce désir-là de concrétiser cet art que je portais en moi. Donc, je me suis dit, je vais écrire pendant 1 an. Tout ce qui me passe par la tête, mais surtout une écriture qui est automatique, donc on réfléchit pas, c'est ce qu'on a en dedans et tout ça. Puis après 1 an, je vais y revenir, je vais en sortir ce qui me parle le plus, puis je vais en faire un recueil. Donc c'est vraiment comme une tranche de moi, c'est comme si je partageais une partie de mon cœur, une partie de moi avec les autres, puis c'est plus qu'un recueil, c'est vraiment tout le cheminement qui est autour, puis de dire que j'ai mis à terme un projet, je suis allée au bout de quelque chose.
Quand on est en écriture automatique, il y a un aspect presque libérateur, thérapeutique, si j'ose dire, mm-hmm. de procéder de la sorte. Tu as mentionné, Émilie, que dans le fond, on ne pense pas, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Qu'est-ce que ça procure comme sentiment, comme ivresse même, parce que c'est, à quelque part, on ressent un énorme plaisir à faire ça.
Oui, exactement. Puis tu sais, pour aller dans une autre tranche, pour avoir vraiment côtoyé aussi les gens dans mon stage ou dans le domaine artistique, beaucoup vont écrire sous l'effet de la drogue. Ça, on en entend souvent parler parce que ça les amène dans un autre univers. Puis ça donne place à des mots sur papier qu'on n'aurait peut-être pas eu la chance de voir en autre terme. C'est pas mon cas. Moi, j'ai pas besoin de ça. Ça vient très spontanément. C'est libérateur. C'est des choses que j'oserais peut-être pas dire avec ma bouche, mais qui sortent très bien quand je les mets sur papier. Voilà.
Alors, si on écoutait peut-être la lecture d'un de ces poèmes qu'on retrouve au sein de ce recueil qui a pour titre 365 jours, qui comporte un certain nombre de poèmes écrits de cette manière-là.
Ouais.
Alors, on va t'en laisser lire un.
Oui, mais je vais choisir au hasard. Je n'avais pas préparé, je ne me suis pas dit ce que j'allais lire. Alors, je choisis avec vous à l'instant. Alors, ça s'appelle RIP. Je nous ai construit un sanctuaire, un tunnel sous la terre, une place sacrée pour nos corps fatigués sous le suaire. Restons sous l'azur, plus de matin, plus de chagrin, offrande pure, aux portes du paradis, deux corps bénis, écrit en septembre 2022.
Et ça nous prépare bien à entendre la chanson de Sheila, « Roi marche ».
Comme les rois mages en Galilée, suivais des yeux l'étoile du berger. Je te suis.
Sheila, les rois mages, notre invitée, Émilie Dubois, ma fille, qui a publié récemment un recueil de poésie, 365 jours. Même si on est dans l'atmosphère de Noël, le poème sur lequel tu es tombé par hasard était un peu mortuaire, mais rempli d'espoir. Mm-hmm. Histoire de se donner une autre couleur, est-ce que tu pourrais nous en lire un autre?
Oui, mais avant, je veux vraiment, parce que Sheila, la chanson, les rois mages, c'est un beau souvenir pour moi. J'ai encore l'image de toi, papa, qui nous avait donné une cassette, des petites cassettes. C'est flou dans ma tête, puis j'avais un petit appareil pour mettre les cassettes. Là, il était plein de couleurs. Puis sur cette cassette-là, il y avait la chanson des Rois Mages. Donc, c'est pour ça que je l'ai choisi. C'est vraiment un beau souvenir qui est un peu flou dans ma tête, mais qui est encore là.
Un souvenir d'enfance.
Ouais,
ça marque les souvenirs d'enfance.
Ouais.
Alors, oui, si on passait à une lecture d'un autre poème.
Alors, j'en choisis un autre. Parfait. Croquis. À l'encre, je te trace. Au crayon de cire, te choisis. Sur ma poitrine, étampe, estampe, décalque de tes pores, tu sens l'arc-en-ciel. Écrit en janvier 2022.
Oh, que c'est joli! Tu sens l'arc-en-ciel. Est-ce que tous les poètes ont ce don de pouvoir percevoir des couleurs, des sons, des sensations à travers les mots? Alors, je te pose la question à toi aussi. Est-ce qu'il t'arrive en écrivant d'avoir des sensations vraiment qui atteignent tes sens?
Je ne sais pas si je peux l'expliquer comme ça. Je dirais que pour ma part, c'est comme... J'ai une autre façon des fois de voir le monde, de voir la vie, de percevoir les choses. J'en parle dans un de mes poèmes. Des fois, c'est la naïveté, c'est le regard d'un enfant. Je pense qu'un enfant, pur, serait capable de dire « Hey, maman ou papa, tu sens l'arc-en-ciel. » Puis ça voudrait dire quelque chose comme... qui rayonne l'amour, ou que la maman est colorée, est habillée colorée. Donc, on entend aussi souvent ces phrases-là poétiques de la bouche des enfants.
À la période de Noël, Émilie, est-ce que tu confirmes qu'on est souvent dans l'arc-en-ciel?
Ben oui, puis je l'espère pour chacun qu'on retrouve cette magie qui nous transporte dans cet arc-en-ciel de Noël, de féerie, oui.
Alors, tu parlais de souvenirs d'enfance. La prochaine chanson est sûrement associée aussi à des souvenirs particuliers, pas uniquement pour toi ou pour moi, mais pour ceux qui nous écoutent, pour ceux et celles qui nous écoutent. Cette chanson a tellement tourné et elle est encore très populaire pendant la période de décembre et janvier. C'est Sentier de neige.
Oui.
Tu y associes quel souvenir particulier?
Ben, qu'on l'a chanté souvent au piano en famille, à la guitare, au piano, au chant. On est une famille très musicale. Donc, c'est ça. Je pense que c'est une des chansons populaires de Noël pour ma part que j'aime vraiment entendre, qui est joyeuse, qui met de la vie puis le sourire.
Le sentier de neige courant la vallée.
Sentier de neige.
Sentier de neige, interprété par les Classelles. Cette chanson a été composée par Lucien Briand, Hal Stanley et Ben Kay. Et elle joue encore, ça fait des années maintenant qu'on entend cette chanson. Et elle ne se démode jamais, parce que je pense que ça nous replonge, Émilie, je ne sais pas si tu seras d'accord, mais ça nous replonge vraiment dans cette sensation de gaieté que nous traversons quand il est question de la période des fêtes.
Oui, exactement.
L'artiste, si on en parlait un peu, les projets qu'elle a réalisés, parce que tu as fait de la figuration,
oui.
Tu as fait du théâtre,
oui.
Il y a plein de projets dont tu peux nous parler. Je ne sais pas sous quel angle on peut aborder
mais
le côté artistique. Oui,
mais le mot artiste, c'est large. On peut tous se considérer artistes. On a tous cette part-là en nous. Je pense qu'il y en a des fois qui disent « Non, je ne suis pas artiste du tout. » Ah oui, oui. Ça peut être dans la façon de faire la cuisine, la façon d'enseigner. On a tous cette part-là, cette partie-là artistique en nous. Moi, j'ai touché à beaucoup de choses. Je pense que je me décris comme une artiste parce que j'ai besoin d'extérioriser ce qui m'habite. J'adore la danse. J'ai dansé beaucoup à Montréal, les vieilles danses, le swing, le blues, le rock'n'roll.
Oui, la danse, ça, c'est vraiment une partie intégrante de toi.
Ouais.
Tu es une amoureuse de la danse, ouais. Le boogie-woogie, entre autres.
Ouais.
Ça fait partie de toi, c'est l'expression ouais. corporelle.
Oui, mais aussi la connexion qu'on peut retrouver avec une autre personne en mouvement avec soi. Il y a vraiment des belles choses qui peuvent se passer et se créer. Donc, oui, voilà.
Au plan théâtral, ouais. particulièrement lorsque tu étais dans l'Ouest, en Saskatchewan, mm-hmm. tu as contribué à accompagner aussi des auteurs.
Oui, peut-être pas sur le plan théâtral, mais j'ai mis sous forme pédagogique, donc c'était avec le Conseil culturel francescois, c'était un beau projet ça, des artistes francescois comme Carmen Campagne. Et Joe Fafard, on a mis en cahier pédagogique leurs œuvres pour qu'ils soient faciles d'accès pour les professeurs en arts plastiques ou les professeurs dans les écoles francescoises. Donc, c'était de revoir une œuvre francescoise pour les élèves. Donc, ça, j'ai adoré faire ça. Là. Ouais.
Mm-hmm. Et tu es allée en tournée aussi avec une pièce de théâtre.
Oui, exactement, comme on disait tout à l'heure. Ça a été une... Vraiment, c'était ma première expérience aussi en co-écriture. Donc, on faisait ça à distance parce qu'il y avait la pandémie. Donc, on se réunissait par Zoom. Puis après, d'être dit simplement en levant ma main, moi, je souhaite jouer. Je veux faire partie de ça. Donc, ça a été un oui. Puis, j'ai fini mon séjour dans l'Ouest à Saskatoon, où est la troupe du jour.
Après ton retour, là, il y a eu une formation qui s'est donnée dans l'Ouest et qui t'a ramené dans l'Ouest.
Ouais.
Quelle était cette formation et qu'est-ce que tu en as reçu vraiment? Qu'est-ce qui en est resté?
Oui, mais un peu comme je mentionnais tout à l'heure, ça a été comme le point de départ du recueil 365 jours. En fait, le premier poème, premier texte qui se retrouve dans mon recueil, c'est le texte qui a été écrit là-bas. Donc, ouais, c'était... Je suis allée à la rencontre de moi. J'explique tout ça un peu dans mon recueil. Être confrontée à certaines parts de moi-même. J'ai souvent été confrontée dans le domaine artistique. Peut-être de pas savoir où est ma juste place dans ce monde-là. Donc, ouais, ça a été des grands questionnements, mais c'est des magnifiques rencontres aussi.
Le questionnement a trait aux questions des valeurs.
Oui.
Tu as été confronté toi-même avec le fait de « Est-ce que je porte jugement? Est-ce que je peux accepter des valeurs qui soient différentes alors que j'ai peut-être parfois tendance à rejeter ce qui est étranger à moi-même? »
Oui. Mais en fait, il y a cette belle découverte que j'ai fait sur moi qui était cette part d'ombre, cette zone grise qui m'habite. On a toute une zone grise et je me suis rendu compte que quand je me retirais, je me renfermais, j'étais distante et tout ça, ben c'est que je faisais face à cette zone grise qui est une zone de ben je sais pas ce que j'en pense, je sais pas où me situer et souvent ça c'est confrontant. Donc aujourd'hui j'apprends à la reconnaître, à lui faire face, puis à défaire les jugements. Aussi
particulièrement au plan des croyances.
Des croyances, oui.
Parce que, bon, tu peux l'exprimer, tu as la foi,
ouais.
Tu l'exprimes, tu as encore besoin de certains rites religieux pour nourrir cette foi. Et quand on est jeune, ça peut être souvent mal perçu par son entourage.
Il y a ça, il y a aussi cette confrontation-là. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai été en communauté où on était très encadré, où c'était très strict. Et j'avais pas envie de faire partie d'une boîte. Et j'ai toujours dit, je peux croire, puis je peux vivre mon art à fond, même si des fois, ça vient comme à l'encontre, si on peut dire, de certaines valeurs que portent ces communautés-là. Donc, il y avait tout ce cheminement-là et de croire formellement à ce que je porte en moi aussi, là, puis de me tenir debout, en fait. Ouais.
Je te salue, Marie.
Entendre les petits chanteurs de Saint-Thomas d'Aquin sous la direction de Marie-Florence Gaillet-Moreau, interpréter Glorius et Ave Maria. Un beau chant,
oui.
Traditionnel. La dévotion que tu portes, oui, à Marie est importante.
Oui, pour moi, c'est un symbole puissant. Ça a toujours été un symbole puissant. Je pense que ça me vient de ma grand-mère, de ma mère aussi. C'est dur à expliquer, je pense pas nécessairement que ça se partage, mais pour moi, c'est ça. C'est une mère qui accompagne, et j'ai toujours l'impression que son voile, le voile de Marie, nous recouvre, nous protège. Ouais, je me rappelle aussi avoir écrit un chant là-dessus que j'espère un jour pouvoir mettre en musique, mais ça sera pour une autre émission.
Bon, ben c'est bien entendu, et puis on en prend bonne note. Je vais lire une de ces belle poésie, un de ces beaux poèmes qu'on retrouve au sein de 365 jours. Ça a pour titre « Délices » et je trouve que ça se prête bien à l'atmosphère de Noël. givre, le corps en givre, le cœur en glaçon. Je suis un fondant au chocolat. Croustillant, dégoulinant, mes veines sont des réseaux pour les sous-marins. Capsule engloutie au port, passager dissous, vogue, vogue, petit navire. Ras de marée, la tempête approche, ne vous en faites pas. Sauce au chocolat pour tout le monde.
Te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra.
Así. Rodrigo Ace, Ace. De todo corazón les deseo feliz Navidad.
Olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. So you know, lo envolví, lo mandé con las tres palabras que conoces. Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra.
Oh, it's your boy, el latino francés, desde París para el mundo. Ondas positivas.
Tu actitud me hizo cambiar. Me escondo de ti, de tu alma helada. Hoy día yo pensé que me hipnotizaste. Yo fui solo un hombro donde lloraste. De ti me enamoré y fue pura pasión. Por ti tanto lloré hasta perder. Te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Oh, last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra.
Cantaba Wham, you better give it to someone special. Rodrigo Ace. Conmigo la producción, T-Top. Y a la guitarra, el maestro Mr. J. Dale mano. Eso. Para la bachatera de Navidad. Merry Christmas.
On vient d'entendre Last Christmas, mais ça c'est votre surprise de la journée, peut-être vous qui êtes à l'antenne, parce que c'est une chanson qu'on entend généralement interprétée par une version anglophone.
Et cette fois-ci, c'est une version caliente.
Oui, interprétée par Rodrigo Ace, donc une version bachata.
Bachata. Oui, dans la latine.
On parlait de l'artiste. Moi, j'aimerais bien l'entendre, l'artiste, nous raconter une belle histoire. Est-ce que tu pourrais nous faire lecture d'un beau conte?
Bien sûr.
Et quel est le titre de ce beau conte?
La princesse de glace.
Mmh. La princesse Cristaline vit au pôle Nord dans un palais de cristal. Comme beaucoup de princesses, elle est adorable mais assez coquine. Et ce jour-là, désobéissant à sa mère, la reine des glaces, elle quitte le palais pour explorer la banquise. « La glace se casse parfois !» lui a souvent dit la reine. « Et tu pourrais tomber dans le souterrain maudit de Mégère, la sorcière des mers !» Mais sur son petit traîneau argenté, Cristaline a oublié les avertissements de sa mère. Tout à coup, crac ! La banquise se casse et Cristaline tombe dans un tunnel. C'est affreux. Elle est dans le souterrain maudit de Mégère, la sorcière. Et les parois sont si lisses qu'elles glissent de plus en plus vite. Pendant longtemps, longtemps. Terrorisée, Cristaline s'arrête enfin dans une petite pièce blanche. Une vitre pleine de buée laisse entrevoir une ombre et un chaudron. C'est sûrement Mégère. Elle est déjà au courant de la chute de la princesse et elle prépare un bouillon bien chaud pour la manger. Cristaline se fait toute petite. Elle entend la sorcière grommeler d'une voix grave. « Pas beaucoup de temps, les enfants, je les aime tant !» Mégère doit avoir grand faim. Cristaline se recroqueville autant qu'elle peut. Mais soudain, catastrophe, elle éternue. « Ah, tchoum !» Aussitôt, Mégère lève une main et mille petites ombres jaillissent de partout. « Quelqu'un traîne par là, cherchez donc !» Cristaline ferme les yeux, tremblant de peur. Mais tout près d'elle, une voix chantonne.
« Qu'elle est mignonne! Tu crois qu'une poupée lui ferait plaisir? Elle a l'air si effrayée! »
Cristaline ouvre les yeux. Dix lutins la contemplant avant de détaler en criant.
« Père Noël, on a trouvé une petite fille! Elle est tombée dans le tunnel enchanté! »
Le Père Noël arrive aussitôt en souriant.
« Oh! 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 Tiens, mais c'est la princesse Cristaline qui a découvert le secret de mon atelier. »
Cristaline se frotte les yeux.
« Vous n'êtes pas Mégère? Vous n'allez pas me manger ?»
Oh, 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 oh.
Le vieil homme rit si fort que les murs de glace s'entrechoquent.
« Il n'y a aucune sorcière ici, foi de Père Noël. C'est moi qui ai tout inventé pour que personne ne cherche mon atelier. » « Mais puisque tu l'as trouvé, je t'emmène faire ma grande tournée dans mon traîneau. »
Quel merveilleux Noël pour la princesse des glaces, même si, il faut l'avouer, elle a eu ce jour-là la plus grande peur de sa vie.
Avoir 5 ans au soleil, avoir le temps d'être éternel et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Est-ce que tu te rappelles, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait Noël, Noël. Avoir 5 ans au soleil, avoir les yeux pleins d'étincelles et lancer des appels en direction du ciel. Oui, je me rappelle, la vie était belle, on attendait Noël, on attendait. Au Père Noël pour un instant de ciel.
maternelle et croire au Père Noël qui descendra du ciel. Redevenir ton frère, petit frère téméraire, en attendant Noël, en attendant Noël, Noël.
La princesse de glace que nous lisait préalablement à ce qu'on vient d'entendre, Émilie Dubois, l'invitée du jour, et ce qu'on vient d'entendre, c'est la belle voix d'Isabelle Boulay, une de ses compositions d'ailleurs, « On attendait Noël ». Isabelle Boulay, pour toi, Émilie, c'est une chanteuse que tu as beaucoup, beaucoup écoutée quand tu étais jeune.
Oui, c'est fou, ça a été dans mon tout premier CD, je me rappelle... que toi et maman m'aviez donné, c'était celui de Laurie.
Je me souviens de nos éclats de rire, même si ça partait de rien. Quel plaisir, tu savais bien. Devine mes angoisses avec tes petits mots malins pour que ça.
Laurie, la chanteuse française. Et après, après j'ai reçu celui d'Isabelle Boulay un peu plus tard parce que c'était sa chanson dans le temps. Comment ça s'appelle? Tous les trains, tous les bateaux, tous les avions. Jamais assez loin, c'est ça.
Tous les trains.
Parce que ma maman aussi, elle aimait beaucoup, puis on partageait ça. Puis j'ai toujours eu un faible vraiment pour la voix d'Isabelle Boulay qui, moi, me transporte à chaque fois. Puis c'est drôle parce que j'avais écouté un documentaire sur Isabelle Boulay, puis cette voix particulière qu'elle a, c'est à cause d'une dysfonction au niveau de ses cordes vocales, mais finalement, ça lui a donné un bel avantage.
Mais oui, alors tout est possible. Hein?
Oui, exactement.
Les projets pour Émilie comme artiste. Si elle avait à imaginer un rêve qui se réalise, ce serait quoi pour Émilie?
Mais il y en a plusieurs. Là. J'aurais pu vous parler pendant des heures. c'est sûr.
Et ça, c'est, je vous le confirme, c'est vrai.
Oui, mais au fond, c'est sûr qu'il y a des contes, pas celui que je viens de vous lire, mais il y en a qui s'en viennent, un projet même en commun avec ma maman, ma mère qui illustre. Donc, on a un projet de réalisation ensemble de contes, un conte de Noël entre autres. C'est sûr que j'écris pour le théâtre jeunesse, puis j'ai fait une demande de subvention il n'y a pas longtemps et je me croise énormément les doigts parce que j'ai envie de mettre ce beau projet-là en marche puis de le voir naître, mais peu importe, c'est dans mes projets qui s'en viennent, là, je veux foncer puis je veux mettre ça sur pied. Donc vous allez me voir là, bientôt, je ne sais pas où, mais bientôt.
Et tu sais qu'il y a de bons anges qui t'entourent, oui. Tu as de nombreux contacts avec des gens qui ont eu beaucoup d'influence chez toi ou qui en auront. Je pense entre autres à Denis Paris par exemple, qui a été ton professeur, le comédien Denis Paris qui a été ton professeur à l'UQAM, qui a eu une belle influence au plan du développement de la comédienne qui est...
Oui.
Qui est né en toi.
Oui, puis on a gardé un beau contact aussi. Ouais.
Je pense aussi à un ami proche qui est d'ailleurs venu ici à l'émission. Je pense à Yvan Asselin, qui est un grand ami à moi, qui est aussi quelqu'un qui écrit merveilleusement bien, qui a vécu des expériences assez formidables en Afrique au plan des radios publiques. Je pense que de ce côté-là, ce pourrait être important de pouvoir éventuellement, qui sait, imaginer un projet ensemble.
Oui, ben on a des beaux échanges en ce moment aussi. Oui, j'imagine, ça serait vraiment intéressant en effet.
Et puis, il y a d'autres personnes qui t'entourent, j'imagine aussi. Je te vois avec les yeux... scintillant, ça veut dire?
Mais j'ai cherché un nom, mais ça vient pas. C'est ça.
Alors, les projets sont là.
Oui, les projets sont là.
Les gens qui voudraient se procurer ton recueil, il y a une façon de le faire?
Oui, mais en même temps, vous pouvez aller visiter ma page web qui est en construction, mais il y a l'essentiel, donc emiliedubois.ca. Vous allez retrouver un lien pour pouvoir commander mon recueil et je fais l'envoi par la poste. Donc, pourquoi pas un petit cadeau de Noël pour le temps des fêtes et encourager une artiste du même coup.
Alors, on redonne l'adresse.
emiliedubois.ca.
Parfait. Là, on va entendre une chanson que je t'ai fait découvrir il y a déjà quelques années. Tu étais beaucoup plus jeune, mais tu as tout de suite eu un coup de cœur pour cette chanson. Et à Noël, à chaque année maintenant, tu demandes à réentendre cette chanson. Ça évoque probablement un souvenir très, très particulier. C'est la voix de...
Charles Trenet? Oui, La plus belle nuit. Mais moi, je l'appelle Noël Noël.
C'est la plus belle nuit depuis la nuit des temps. C'est la nuit de Noël, la nuit d'un pauvre enfant, de Jésus, fils de Dieu, descendu sur la terre pour que les cœurs anxieux ne soient plus solitaires. Pour que la paix du monde arrive qu'ici-bas, l'espoir, la charité viennent guider nos pas aux joies de Bethléem. Merci pour ta lumière qui change en un seul jour la face de la terre. C'est là que tu peux promettre le royaume des cieux à ceux qui te suivront et qu'enfin tu pardonnes en mourant sur la croix tous les péchés des hommes.
De Charles Trenet avec La plus belle nuit. Quelle belle chanson! Et ça me revient, la personne tout à l'heure dont je voulais évoquer le nom, c'était Gérard Poirier. Donc, Gérard Poirier qui était un bon ami aussi à Denis Paris. Puis, Gérard Poirier m'a accompagné un bon moment dans mes questionnements, mes désirs d'écriture. Il lisait mes textes. Vraiment un artiste exceptionnel, avec une voix magnifique aussi, puis une qualité dans l'écriture et dans le jeu.
Et dans la complicité aussi.
Ouais, exactement.
Je me souviens d'être allé chercher Gérard Poirier chez lui, parce qu'il tenait à assister à la présentation de fin d'année, je crois.
Oui, ma présentation de fin d'année à l'UQAM. Donc, notre présentation finale, c'était en production. Puis, c'était sur les fables de La Fontaine. Oui, c'est un très beau souvenir, en effet.
En terminant, Émilie, j'ai le goût de te demander, qu'est-ce que représente Noël pour toi?
Pour moi, Noël, c'est à la fois une fête empreinte d'un legs immense, d'un legs familial, du côté des valeurs, des souvenirs. Donc, il y a toute cette partie-là. Il y a aussi, bon, la partie de la foi, en fait, au-delà peut-être de cette foi en Dieu, mais de ce questionnement chaque fois, de cet amour plus grand que soi, de cette fête d'espoir, hein, de cette image de cet enfant venu sur terre pour sauver, pour libérer un peuple. Donc, de se demander où va notre monde et d'être encore dans l'espérance. Et de célébrer cette espérance-là en famille, avec les gens qu'on aime, puis ça peut prendre différentes formes par le chant, la musique, les échanges, la fête, les jeux. Puis vraiment, ces moments de vérité en famille aussi, dans le partage des émotions. C'est vraiment un temps pour se dire les vraies choses aussi, je pense, pour dire merci, pour dire qu'on s'aime. C'est un temps d'arrêt. Donc Noël, c'est beaucoup. C'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Et c'est magnifique de voir ce que ça évoque chez les différentes personnes aussi quand on pose cette question-là. On a toute une vision de Noël qui est différente aussi. Donc voilà.
Et comme c'est Noël, j'aimerais cela entendre la petite fille qui exprime un vœu de Noël à son papa ou à sa maman ou à tous les auditeurs, auditrices à l'écoute. Alors, on va faire appel à la petite Émilie qui a peut-être 6 ou 7 ans, ou peut-être même plus jeune.
Mais moi, là, pour Noël, là, j'aimerais ça qu'il y ait de la neige pour faire un gros, gros, gros bonhomme de neige. Et pour pas que le Père Noël, quand il va venir, qu'il fasse mal à ses fesses en tombant. et je veux aussi que tous les enfants dans le monde, y ait de la joie dans le cœur.
Merci. Eh bien, c'est tout le temps dont on disposait. Très heureux de t'avoir reçu. Le temps de te dire que cette émission a été réalisée par la personne qui vous parle. Je vous souhaite à toutes et à tous un merveilleux Noël. On aura au cours des deux prochaines semaines deux belles émissions de Noël aussi, en compagnie entre autres. Ben, on ne le dit pas, c'est une surprise. Alors restez fidèles au gré du temps et on va se quitter avec un choix très particulier d'Émilie. On va entendre
Christmas Rumba.
Et c'est interprété par Roman Street.
Ouais, belle découverte.
En fait, c'est Noah et Josh Thompson à la guitare, c'est très beau. Ouais. Alors, on a du rythme,
ouais.
On retrouve la personne qui aime danser.
Exact.
Comment dire?
On s'en va dans la joie.
On s'en va dans la joie.
Merci.
Au revoir.
Bye bye.